formuler la constitution des droits de l'homme à l'échelle internationale. Et la communication que j'ai faite et qui a, je vais prendre en français élégant, puisque j'ai repris, tout le monde, ils ont fini par me dire, était basé là-dessus. C'est-à-dire que ce que nous appelons les droits, c'est récent. On est obligé de les réclamer parce que la notion de devoir a perdu son fondement. Et est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Pour quelqu'un qui a conscience de ses devoirs vis-à-vis d'autrui, les droits d'autrui sont fondés. Mais si il ne s'agit pas de quelqu'un qui perçoit la valeur du devoir, la notion de droit n'a aucun fondement. C'est fait. Et si les devoirs sont accomplis, on n'a plus à réclamer les droits. S'il faut réclamer les droits, c'est que les droits ne sont pas garantis. Les droits qu'il faut réclamer ne sont pas garantis. C'est juste bien à ça. Je pense que c'est une des manifestations de la civilisation contemporaine qui est en fin de compte une des conséquences ultimes de la séparation entre le politique et le moral. On a substitué le droit dans le sens légal au droit dans le sens moral. Et la société moderne, la société juive y compris, parce qu'elle fait partie des catégories de la civilisation occidentale, est aux prises avec ce problème et n'arrive pas à s'en sortir. Même les journaux pour les événements immédiatement contemporains, c'est vrai, à quel point il y a un dialogue de sourds entre les juges qui vous parlent de la légalité de tel ou tel événement, alors qu'au niveau de la morale, tout le principe des valeurs éclate dans cette légalité. Mais on n'arrive pas à faire cadrer ça dans ça. Je crois que les événements qu'on a vécu cette semaine avec ce que vous savez, qui sont des événements de Tisha B'Av et pas d'autre chose, on n'a pas fini de voir les conséquences, c'est pas ça que je voulais parler, mais sont de cet ordre. En se mettant à l'abri du droit légal et en pensant être un héros de la moralité, on se conduit comme. C'est finalement la conséquence. Alors je reviens à votre problème. Mais je voudrais un peu plus expliquer ça parce que c'est une évidence. Tellement devenue une pseudo-évidence, tellement devenue familière qu'on se rend plus compte du problème qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas s'il y a un système politique, juste du point de vue de la morale absolue. Étant donné précisément l'inégalité de nature des personnes. Par conséquent, pour corriger cette inégalité de nature, il faut restituer une égalité de dignité. Mais je vais vous comparer très brièvement ce que je fais souvent lorsqu'on aborde ce problème, la formule de la Constitution, française, et la formule de la Révolution socialiste de la Révolution d'octobre. La formule de la Constitution française consiste à dire, comme vous avez dit, en droit. Tout cela est d'une approximation théorique et volontaire. C'est pas vrai. Parce que personne n'est libre comme l'autre, chacun a un conditionnement différent, comme quelqu'un d'autre, et personne n'a les mêmes exigences, les mêmes capacités, les mêmes tendances. Par conséquent, il faut parler d'un devoir de reconnaître la dignité d'autrui, quelle qu'il soit. Mais si on commence par dire une équation faite, et elle a tellement impressionné les esprits, elle a été d'ailleurs inventée par les philosophes de l'encyclopédie. Et il y a la philosophie des Lumières derrière la Constitution française. Et finalement, on a un régime absolument hypocrite, d'une part, et qu'on n'arrive pas à corriger et à mettre sur le chemin de la justice d'autre part. C'est un problème très, très grave de société contemporaine. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à l'armée, à l'époque que vous savez, légalement, à l'armée, chacun reçoit une part de nourriture absolument égale une à l'autre. On appelait ça d'ailleurs Alors, on avait des soldats dans le bataillon qui mangeaient deux fois plus que d'autres, ils avaient un appétit plus grand. Alors, il n'arrivait pas à se satisfaire de la manna, enfin de la part que chacun recevait. Là, il y avait une procédure spéciale pour leur payer ce qu'on appelle le pré-franc. Ça dit quelque chose dans les français. On leur payait un double pré-franc. Ils n'en demandaient pas tant. Ils demandaient à manger à leur faim. Alors, ils avaient deux assiettes, alors que vous en avez plus. Alors que ça pouvait suffire suivant le cas, il y a certains 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 cas. Alors, faire entre la qualité de la personne humaine dans les cas abstraits d'égalité, c'est une absurdité. Ça, c'est la formule de la révolution. Alors là, la formule de la révolution socialiste, la révolution d'octobre, est beaucoup plus proche que de l'esprit de la Torah. Elle est à chacun suivant ses besoins. C'est un tout à fait clair. Et on peut pas dire que les hommes sont égaux en besoin. Voilà ce que je dis. Mais donc, c'est un problème difficile, c'est évident. Je crois que c'est Montesquieu qui disait que finalement, le régime le moins catastrophique, c'est encore le régime démocratique. Mais c'est comme ça qu'il s'exprimait. Parce que, à la base d'une démocratie abstraite, il y a la notion de l'égalité des personnes. Or, cette notion-là est fausse, complètement fausse, à tous les niveaux. Je vais vous dire comment on dit en est. Donc il faut trouver un critère de justice, de dignité pour chacun à un niveau praticable, opérationnel, opératif. On dit opératif ou opérationnel. Mais si on s'attache à ce principe que tout le monde sait être faux, sauf les élèves de l'école laïque républicaine, enfin les instituteurs, même eux-mêmes n'y croient pas. Alors, finalement, on arrive à un état de la société qui est moralement catastrophique. C'est-à-dire, ce qu'il faut, tu donnes un petit exemple qu'on a étudié à la même époque, je ne m'en rappelle plus quand, mais il n'y a pas très longtemps, quand on a étudié le devoir de Tzedaka, d'après la Gemara, si quelqu'un, comme on dit aujourd'hui, a fait faillite, a perdu sa fortune, alors le devoir de Tzedaka pour lui, c'est de lui donner le train de vie auquel il était habitué. Ça, c'est le devoir de Tzedaka. Si on en fait le terme de droit, c'est ce à quoi il a droit par rapport au devoir de Tzedaka. Est-ce que c'est clair? Et le Talmud, avec son humour habituel, exagère. Il dit, s'il est servi par sept valets à table, il faut que tu le fasses servir par sept valets à table. Sinon, tu n'as pas compris ton devoir. Sinon, de quoi tu parles? Ben, vous avez compris. Bon. En hébreu, ça, je l'ai montré souvent, mais je voulais le remettre au tableau. L'indication que dans la langue hébraïque est très, très importante. Deux mots que je vais remettre au tableau. Le mot est égal à petit chalet, avec un H, et il y a un mot très proche qui est le mot chat, qui signifie reine. C'est-à-dire, si deux choses sont égales, il y en a une des deux qui est reine. C'est-à-dire qu'il n'a pas de signification. C'est comme si le chalet était chat. Nous avons ce problème, comme sur d'autres, à opérer des rétablissements de mentalité pour comprendre les valeurs hébraïques qui sont apportées. Et oui, je suis tout à fait d'accord. Et rappelez-moi d'où j'étais parti pour parler de ça. Ah oui, l'expression le nombre et le nom, c'est ça, de l'histoire chez nous, c'est bien ça. C'est bien ça de mon département. Ah oui, et là vous avez indiqué que dans notre dénombrement ici, vous avez indiqué que pour cela, il faut bien avoir en mémoire que ça signifie donc que le premier dénombrement n'a pas compté les Lévites. Ce que le texte n'indique pas clairement dans le livre de Chemin, mais qui est évident dès qu'on se rend compte que précisément la tribu de Lévi n'avait pas participé à la fin du livre. Donc c'est l'explication simple qui résout le problème selon Rachid. Je le rappelle, les deux nombres sont identiques parce que les deux dénombrements sont dans la même année d'âge, comment ça touche-t-il, et les Lévites n'étaient pas dans le premier dénombrement. C'est la raison pour laquelle dans le deuxième aussi, les Lévites vont être comptés à part, et c'est là que je parlais. Il y a des critères d'identification de chaque personne. Le nom désigne, là j'ai arrivé, le nom désigne le génie personnel de chacun et qui est absolument égal à rien d'autre. Même deux jumeaux sont différents et chacun est un monde différent, même le plus proche, approximativement proche l'un de l'autre. Je vais indiquer ça parce qu'il me semble que pour la société contemporaine, énormément de problèmes d'inégalité réelle découlent de cette pseudo-notion d'égalité théorique. Alors, je vous ai comparé d'ailleurs ces deux formules, à chacun selon ses besoins. Eh bien, c'est finalement pas la solution du problème moral, ce serait à la rigueur la solution du problème des jouissances. Et c'est d'ailleurs l'objectif de l'analyse marxiste de la personne humaine, mais en tout cas c'est beaucoup plus proche de l'esprit de la Torah. C'est-à-dire que chacun doit être jugé suivant les normes de sa propre identité. Par conséquent, on retourne à notre problème général, c'est très dangereux de porter un nom, parce que c'est ce nom qui nous juge de façon perpétuelle. Et donc, l'interpellation du dénombrement, c'est précisément l'interpellation de la nomination. On a donc la première explication donc, de Rashi, et ça se crée un peu comme problème. Le Rambam a une toute autre manière d'expliquer ce problème. Le Rambam, Nahmani, dit dans le premier conte, la tribu de Lévi était comptée, mais pas dans le deuxième, et que la différence entre le nombre des membres de la tribu de Lévi et le nombre, comment dire, je me suis mal exprimé, est-ce que si c'est pas trop difficile, pour le rabbin, le premier dénombrement, il y avait la tribu de Lévi, pas dans le deuxième dénombrement. Mais comment se fait-il qu'on arrive au même nombre? La différence est par le nombre des personnes des tribus d'Israël qui sont passées de 19 à 20 ans. C'est-à-dire, il dit qu'il faut prendre acte que c'est le même nombre. Mais comment? Rashi a indiqué son enseignement. La Rambam a indiqué une toute autre perspective. On essaie de comprendre pour lui-même, c'est qu'en réalité, la tribu de Lévi avait été comptée dans le premier nombre, mais pas dans le deuxième. Mais que le nombre finalement est le même à cause de la quantité, je sais pas comment dire, de personnes qui sont passées de 19 à 20. Comment vous expliquez ça? C'est plus simple. Et ce qui est rare? Oui, oui, mais ça veut dire que corollairement, c'est le même nombre de.
Mais ceux d'attribut de vous aussi pouvaient passer de 19 à 20.
Mais le nombre de la tribu de Lévi n'est pas le même dans le deuxième point que dans le premier. Pour le Rambam, ça ne peut pas être bien. Dans le premier dénombrement, selon Rambam, les critères d'identification de la tribu de Lévi et de la tribu d'Israël étaient donc les mêmes, puisque c'est le même dénombrement pour le deuxième. Et par conséquent, ce n'est pas étonnant que le nombre d'Israël qui vient de s'ajouter dans le deuxième dénombrement est la même qualité critère des enfants d'Israël du deuxième dénombrement que le nombre de la tribu du premier dénombrement. C'est-à-dire, dans le premier dénombrement, je répète, dans le premier dénombrement, le critère d'identité tribu de Lévi ou tribu d'Israël est le même. C'est bien clair. Ce n'est que dans le deuxième dénombrement que la tribu de Lévi est dénombrée à un niveau supérieur. C'est bien clair. Par conséquent, ça signifie que les membres des tribus d'Israël au deuxième dénombrement avaient avaient la même identité que les membres de la tribu de Lévi du premier dénombrement. Pardon? Oui. Non. Non. Les deux dénombrements, je prends le deuxième, de notre paracha. Le deuxième dénombrement, c'était le premier Iyar de la deuxième année de Nissan, de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Et les tribus d'Israël ont été comptées à part, et la tribu de Lévi à part le même jour. Bon, le problème était, le premier dénombrement, est-ce que la tribu de Lévi était impliquée ou pas? Alors pour Rashi, il n'y a pas de problème, c'est la même analyse ici. Il faut donc appliquer que la tribu de Lévi n'était pas comptée, déjà dans le premier dénombrement. Pour le Rambam, c'est tout à fait différent, et ça nous apprend un enseignement supplémentaire, c'est le fait que les membres des tribus d'Israël, du deuxième dénombrement, avaient le niveau d'identité des membres de la tribu de Lévi du premier dénombrement. Bien très bien. Je reprends l'explication du Rambam. Voilà. Pour le Rambam, dans le premier conte, celui du jour de Kippour, après la faute du Vaudor, les membres de la tribu de Lévi étaient comptés. Mais pas dans le deuxième. Alors la différence de nombre puisqu'ils n'étaient pas comptés dans le deuxième, est expliqué par les membres des tribus d'Israël qui sont arrivés à l'âge de 20 ans dans le deuxième dénommé. Bon, alors ça signifie qu'il y a une équivalence entre l'identité des membres des tribus d'Israël qui viennent prendre numériquement la place de la tribu de Lévi qui était dans le premier nombre. Alors il en résulte une donnée très simple. Ça veut dire qu'au deuxième dénombrement, tout Israël était déjà au niveau de l'identité qu'avait la tribu de Lévi au premier nombre. Ils en ont deux noms. Et un des grands commentateurs, je ne l'ai pas encore cité, et qui s'appelle Rabbeinu Bechaye. Vous avez entendu ce nom, Rabbeinu Bechaye Ben Asher, qui est un des grands cavaliers du Moyen-Âge d'Israël, un des grands commentateurs de la Torah, qui est un des maîtres de Nachmanides. Il explique de la manière suivante. Ça m'a échappé d'un coup. Ça laisse pas. Attends, une minute, pas très voilà. Ça va me revenir. Quelle était la question juste avant? La question n'est pas tellement comment ça se fait que c'est le même nombre. La Torah a voulu que nous sachions que c'est le même nombre. La question des commentateurs, c'est qu'est-ce qu'on apprend de cela, du fait que c'est le même nombre. Attends une minute, je vais retrouver juste le point que j'ai ajouté à ce moment-là. Pose ta question, ça me reviendra.
Vous dites que dans le deuxième dénombrement, ça veut dire que Israël est déjà au niveau de l'Élohim, parce qu'ils étaient précédemment à la Vodom, et que les l'Élohim sont... Eh bien, est-ce qu'on peut dire peut-être que ceux-là qui sont passés de l'âge de 19 ans à 20 ans, dans le deuxième dénombrement, après la faute du Vodom, n'ayant pas été responsables de la faute de Vodom, ceux-là même sont égaux aux Lévi qui étaient dénombrés auparavant.
Et c'est cela qui indique que les autres aussi.
Pourquoi les autres aussi?
Parce que précisément les autres aussi ont été les rescapés de la faute du Vodom, c'est-à-dire ils n'avaient pas participé. Mais c'est précisément cela qui indique que... Alors voilà ce que disait Rabbeinu Bechaye, c'est que pourquoi on nous a dit, d'abord Hachem et Moshe dans notre premier verset, Beni par Sinaï, Beurel Moed, dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez déjà appris ça, il y a trois niveaux de la révélation de la Torah à Moïse. Dans le Sinaï, dans le Moed, et dans Arvot Moav, le cinquième livre. C'était une révélation un peu plus compliquée. Alors, Rabbeinu Bechaye dit, ça nous est indiqué cette ma'ala des enfants d'Israël au deuxième dénombrement, par le fait que cette révélation est donnée à travers la révélation en Moïse dans le Moed, déjà dans le Mishkan déjà. Et il y a ici l'indication qu'il s'agit des enfants d'Israël qui ont encore gardé au moins potentiellement la kdusha que seuls les Lévites ont réalisée encore en ce temps. Maintenant, la troisième thèse, c'est celle du Ralbag. Ralbag, c'est Gersonide en français, parce que vous avez entendu ce nom-là, et qui est cité par le Malbim de la manière suivante. Il donne une explication beaucoup plus simple encore. Il dit ceci. Dans les deux comptes, les Lévites n'ont pas été comptés. Mais le nombre de ceux qui sont arrivés à 20 ans dans le deuxième compte était le même que le nombre de ceux qui ont dépassé 60 ans. Alors il en résulte que la vraie question est, est-ce qu'il n'y a pas eu de mort entre temps? C'est-à-dire ces trois thèses, quelles qu'elles soient, est-ce qu'elles nous apprennent, dépendent du deuxième problème, est-ce qu'il n'y a pas eu de mort entre temps? Alors, je vais l'aborder tout de suite. Il y a dans la première explication qui est donnée à partir de Rashi, c'est que dans la paracha de Kiddusha, la raison que donne la Torah elle-même pour laquelle le dénombrement doit se faire par le Kofer Nefesh est exprimée par l'expression suivante: Vélo Yébaël Legef, Bifkodotav. Ça veut dire, si vous dénombrez de cette manière, chacun en donnant l'expiation de sa personne, il n'y aura pas de catastrophe qui vous atteigne. Et c'est la réponse suffisante. C'est-à-dire, parce que s'ils se sont identifiés de cette manière, chacun à travers le nom de sa propre personne donnée en faire effet, qu'il n'y a pas eu de risque qu'il y ait de mort dans cette union. Le marché d'acheter.
Dans ce dénombrement.
Dans le premier. Étant donné que dans le premier dénombrement, après la faute du Vaudor, la clause était l'expiation par le Maharshi Tachekel, ils ont été préservés de la mort à partir de là. Voilà donc la réponse que donne le commentateur à partir de là. Seulement, il y a une objection, je voudrais vous demander de vous apporter s'il y a du Shekel dehors, parce que dénombrement ou pas, on va avoir un négé. Vous le ressentez peut-être moins que moi, parce que la chose. Alors, dans la paracha de Souka, on a posé le problème suivant. Que le problème qui concerne le Pessah Sheni, qui se trouve dans la paracha la semaine prochaine, la paracha de Nassé. C'est-à-dire qu'il y a une prescription que ceux qui étaient impurs au moment de Pessah, doivent faire Pessah deux mois suivants. C'est-à-dire, au lieu de faire Pessah le 15 Nissan, s'ils sont impurs au moment du 15 Nissan, ils font Pessah au 15 Iyar. Et d'ailleurs, la tradition est restée, et chaque 15 Iyar, on mange de la matzah au repas. Vous savez ce que c'est ? Non ? La matzah n'a pas fait, non, on mange de la matzah cachère de Pessah, elle peut être mangée avec le panais, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est une recherche. Et d'ailleurs, en général, on essaye de prendre la matzah shmura pour faire la motzi de 15 Iyar pour appeler le Pessah Sheni. Et là, tu vas prévoir, vous trouverez ça dans la paracha de Nassé, prévoir que celui qui est impur au moment du Pessah Sheni ou en voyage, c'est-à-dire à Choka, c'est-à-dire en dehors de l'Israël, il ne peut pas faire le premier Pessah, alors il fera le Pessah Sheni. Donc, cette prescription du Pessah Sheni a été indiquée dans la Torah à la suite de l'intervention, nous dit la Torah, de membres du peuple qui sont venus dire à Moïse, nous n'avons pas pu pratiquer le Pessah parce que nous étions impurs, et l'expression est « Anashim she'ayu tmeim le nefesh adam ». Ils étaient impurs au contact d'un mort. Et nous ne pouvons pas faire le Pessah, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que Moïse révèle la prescription du Pessah Sheni. Ça se trouve d'ailleurs, à propos d'être, nous dit aussi, que la Torah nous dévoile lors d'un récit, il est arrivé quelque chose, alors on a posé la question à Moïse, on sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, et Moïse dit la Torah dit que. Et alors la Gemara a posé la question, pourquoi c'est de cette manière que la Torah indique qu'elle était mise là? Et la réponse est très importante. C'est pour donner le mérite du dévoilement de Tony Dura à ceux qui ont posé la question. Les Ahmed Srout, voilà, l'expression est Anashim, Shahit, Meim, Yenefeshadam. Ils étaient impurs au contact d'un cadavre. Alors la Gemara demande Mihayu, Anashim, qui étaient ces hommes-là? Et surtout, la question est reliée à notre problème parce que c'est donc qu'il y a eu des morts. Alors tout est remis en question. Okay. Alors là, je vais. Là, on ne sait pas. A priori.
Oui, non, mais il y a une compensation.
Non, revenez bien. Dans toute l'étude qu'on a eue tout au début, assez lentement, pour que ce soit bien clair, les réponses qui nous ont été données, tant par Rashi que par Rabban que par Al-Bad, ça marche que s'il n'y a pas une mort. Et donc, il était resté la question essentielle, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mort dans cette génération-là. Alors, je vais citer la réponse de Rachid lui-même, étant donné que la promesse qui s'attachait au fait que le dénombrement se fasse par le biais d'un rite d'expiation était qu'il n'y aurait pas de mort.
Objection,
oui,
c'est ça. On peut dire que les morts étaient vieux. Ils ont 120 ans,
Ouais, c'est ce que vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire, mais ça, on ne le sait pas a priori. Ce serait une hypothèse de réponse qui ne répondrait pas complètement. Qui devrait répondre à la demande? La demande même demande de qui étaient ces hommes-là. Et elle donne deux réponses essentiellement. C'était ceux qui portaient le cercueil de Joseph dans le désert, et c'est la première réponse, Alors évidemment, Joseph ne fait pas partie du camp du démembrement, mais ça a des prolongements qui vont très très loin. Parce que un verset des psaumes définit Joseph par le mot de Adam, Orel Shukel Ba Adam. D'autre part, le verset que je vous ai cité à propos de cette mitzvah du Pessah Sheni a dit, c'est Ayut Meim Lenefesh Adam, c'était ce Adam à propos duquel ils se sont rendus impurs, c'était le cercueil de Joseph qu'on appelle Adam dans l'Église. Si on a vu tout à l'heure, je vous donnerai quelques indications sur le thème qui apparaît là. C'est que, bien que la génération du désert était garantie de pureté à la suite du premier dénombrement, étant donné qu'elle était accompagnée par les ossements de Joseph, elle était accompagnée quand même d'une impureté qui venait des ossements de Joseph, c'est très important pour nous. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a ?
Ce n'est pas possible.
Qu'est-ce
qu'il y a ? C'est pas possible qu'il soit rendu impur par les ossements de Joseph, parce que le moment donné, du moment où un corps est tout à fait décomposé, on n'y a plus d'impureté. Puisque un Cohen, par exemple,
je vais te donner la règle. Je vais te donner la règle qui est un peu plus précise. Et tu penses bien que la Guémara connaissait cette règle. C'est
pas
oublié. La halakha est que quand les ossements sont secs, quand ils sont plus humides, quand il n'y a plus de trace d'humidité, l'impureté est assise. Mais le corps de Joseph était embaumé dans un cercueil qui était dans le Nil. J'ai pas dit ça, c'est beaucoup plus. Bon, la première réponse était donc qu'il s'agit des enfants de Joseph, c'est ça ? Il s'agit des enfants de Joseph, et donc il n'est pas dans sa vie. La deuxième réponse, c'est qu'il s'agit de Michaël et de sa femme, qui étaient les oncles. Il y a eu des morts, oui, mais pas dans le nombre de tribus d'Israël. Chez les Lévites, il y a eu deux morts, les enfants de Aaron, vous vous rappelez, à cause du feu de Jérusalem. Or, les oncles de Nadab et Abihu se sont occupés de leur enterrement, ça s'appelle Metnitzvah, et par conséquent, ils étaient impurs à cause de ça. Pour vous indiquer que dans toutes les dimensions du problème, la Gamara a étudié cette question et nous a indiqué finalement que le privilège du dénombrement de cette génération, c'est que c'était le même nombre et qu'il n'y a pas eu de mort, c'est-à-dire que ça nous renvoie au problème du danger du dénombrement et de la manière dont le dénombrement doit être fait, de cette sorte qu'il n'y ait pas ce risque d'avoir. Alors, voilà donc le premier. Alors à ce propos, je voudrais vous citer un enseignement d'un commentateur peu connu, contemporain, enfin de la génération précédente, et qui s'appelle Guy Lézard. Et il cite à ce propos une Gemara qui se trouve dans la Gemara de Irubin, et où on pose la question est-ce que c'était bien pour l'homme d'avoir été créé ou pas ? Alors, vous allez l'apprendre. Noach lo la Adam shenivra, ou Noach lo la Adam shelo nivra. Il y a une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai pour savoir si c'était bien pour l'homme d'avoir été créé ou pas bien pour l'homme d'avoir été créé. Vous avez peut-être entendu déjà une allusion à cette discussion dans la Gemara. D'abord, le seul fait même qui est dans la Gemara, une discussion pareille, c'est très étonnant. Les rabbins de la Gemara sont les sages d'Israël, et l'idée qui se pose, la question de savoir si Dieu a bien fait le créer l'homme ou pas, est une idée difficile à comprendre. Il faut donc expliquer de quoi il s'agissait dans cette discussion. Et je vous donner le commentaire le plus classique possible de l'Ézahab, et comment il le rattache à notre. Comment il le rattache à notre problème. Alors, ça me permettra de comprendre le lien entre la paracha de Bemidbar qui vient toujours avant la fête de Shavuot dans les années habituelles du calendrier. Premièrement, la formule employée par la Gemara. Noach lo la Adam shenivra ou shelo nivra. Ça veut dire, la Gemara n'a pas posé la question de savoir si Dieu a bien fait de faire exister l'homme, mais de le faire exister comme créature, c'est-à-dire de l'avoir fait exister en le créant. Entendez ça en hébreu. En le créant comme créature, ça veut dire doué d'un yetzer tov et d'un yetzer ra. l'homme aurait pu être fait exister d'une autre manière, mais qui n'implique pas cette identité de créature avec le problème qu'elle a résolu en tant que créature, c'est-à-dire la préeminence de l'opérateur sur les tirages. J'ai raconté ce que c'est vrai continuellement, je répète ça très important. On ne comprendrait pas même la manière dont la question a été posée si on n'entend pas avec les mots qu'on employait quand on parlait de la demande. Noir fleur à Adam chez Nidra, et le noir fleur à Adam, et le noir fleur à Adam chez l'Onidra. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule manière d'exister, d'être fait exister en tant que créature. Par exemple, l'homme aurait pu être fait exister à la manière dont existent les anges, par exemple. Ou à la manière dont existent les animaux, ou à la manière dont existent les minéraux. Qu'est-ce qui caractérise l'idée de Bria, créature, c'est la dualité des instincts de l'homme par rapport à un sens moral, le certain et le terreur. On apprend ça dans notre tour de la demande, que l'homme a été créé avec deux yotarim, deux tendances qui nous viennent de Dieu. Parce que d'abord, il y a ça. Créer, ça veut dire avec un terreur. Voilà, la demande continue en disant, nous, nous regardons, ils sont passés au verre et ils ont repris. Le noir de Adam, chez l'homme, il aurait été mieux pour l'homme qu'il ne soit pas créé. Mais maintenant qu'il est créé, qu'il soit vigilant dans ses actes. S'il passe près, c'est une mâche-mèche de Marassan. Donc, c'est clair. Je reprends en français. Finalement, les sages d'Agamara ont pensé qu'il aurait mieux valu que l'homme ne soit pas créé. Mais maintenant qu'il est créé, alors il vaut mieux qu'il surveille sa conduite. Alors, le vieux départ, ici, qu'un de ses maîtres, va nous lire la phrase d'Agamara de la manière suivante. Nous, nous regardons, ils sont passés aux heures, et ils ont conclu, nous ont décrit littéralement, nous, ils ont compté. Ils ont compté la vie de chaque sage, ça c'est dans le chat. Mais nous, regardons, ils ont compté le nombre de niveaux. Et vous savez, dans la Torah, il y a 613 niveaux, il y a 248 niveaux positifs, et 365 niveaux négatifs. Alors ils ont compté le nombre de niveaux. Et ils ont dit que le nombre de niveaux négatifs est beaucoup plus nombreux, et que par conséquent, l'homme a plus d'occasion de risquer l'échec moral que la vertu. Il y a 248 commandements positifs, mais 365 commandements négatifs. Vous suivez ? Alors c'est pourquoi ils ont dit « Noir sur la dame, chez l'homme grand ». Puisque il est donné à une occasion d'échec beaucoup plus multipliée que l'occasion de vertu. C'est bien clair ? Bon. Alors, l'Agmara explique quelques pages après que ça c'est dans le cas où on pratique la Torah le Hishma. Parce que si on pratique la Torah pas avec l'intention d'accomplir ce que la Torah demande, c'est ce qui s'appelle pratiquer la Torah le Hishma. Si on l'applique avec une intention différente que ce que demande la Torah elle-même, que le fait que la Torah le demande, alors on n'a que le mérite des actes. Tandis que si on a pratiqué le Hishma, Dieu ajoute la bonne intention à l'acte, qui fait que pour chaque mitzvah assez, on a un double mérite. Et à ce moment-là, le nombre des commandements positifs est doublé, et donc supérieur au nombre des commandements négatifs. Okay. Alors je reprends la formule, c'est que, à cause de vos retours, « Metaref ma'asara tova le ma'as ». C'est-à-dire, si un acte positif a été fait avec une bonne intention, une intention de l'Ishma, il y a le mérite de l'acte et le mérite de l'intention. Alors que, dans le cas de la Avera, bien sûr, il n'y a pas. C'est un problème pour lui-même, on n'a pas changé d'étudier, on aura certainement l'occasion. Le tchad de la Gemara, et bien attention, c'est pas que l'intention compte comme l'acte, même s'il n'y a pas l'acte. C'est que l'intention est ajoutée à l'acte quand il y a l'acte. C'est clair ? Le raisonnement est suivant. La mauvaise intention n'est pas ajoutée à la mauvaise intention. Mais la bonne intention est ajoutée à la bonne intention. Ça veut dire que, et de là on a tiré une conséquence, si quelqu'un voulait faire le mal, mais ne l'a pas fait, on ne compte pas ça comme mérite. Il ne l'a pas fait parce qu'il était empêché. On ne compte pas ça comme mérite. Mais si quelqu'un voulait faire le bien vraiment et ne l'a pas fait, on lui compte comme s'il l'avait fait. Mais c'est une conséquence qu'on a tirée du tchat. D'accord ? Puisque la bonne action, la bonne intention est ajoutée à la bonne action, alors lorsque vraiment on a été empêché d'une bonne action, l'intention est comptée comme si on l'avait fait. Mais ça c'est en plus, c'est bien clair. La raison est très simple. On comprend bien de quoi est faite la volonté humaine. Lorsque la volonté humaine veut le mal, rien ne peut l'empêcher. Par conséquent, si il a été empêché, c'est qu'il ne voulait pas faire. Donc on ne compte pas l'intention mauvaise comme mort. Tandis que la bonne intention, la volonté de faire le bien, peut être empêchée. Elle peut être empêchée. Peu importe. Ça veut dire que s'il l'a pas fait, c'est pas parce qu'il ne voulait pas, c'est parce qu'il y a eu accident. C'est-à-dire que des obstacles contre une bonne intention, ça peut exister. Des obstacles contre une mauvaise intention, ça n'existe pas. Donc s'il y a eu obstacle, c'est qu'il n'y avait pas vraiment mauvaise intention. Parce que c'est clair, mauvaise intention. Et ce qu'on apprend. Alors je vais vous donner un philippe là-dessus, on s'arrêtera là. C'est-à-dire, on va prendre le nombre de mitzvot de l'État assez, c'est 365. Et le nombre de mitzvot assez, c'est 240. Alors s'il y a Torah Lishma, il n'y a pas seulement 248 mitzvot assez, on a 496. Bon. Alors, c'est la valeur numérique du mot. C'est un mot qui est un doublé du mot de tsava. Tsava, c'est la racine tsade, de alef, et la racine tsade, ce mot est employé dans l'hébreu moderne avec un doublé araméen d'ailleurs qui est tsafta. Tsafta, ça veut dire chibou, une autre chose. Bref, en hébreu, mais tsafta, c'est ça, en araméen. Et alors, dans la Gemara de Shabbat, à propos du dernier verset de Kohelet, l'avant-dernier de Kohelet, le verset dit et qui ira avec une votable chez nous qui est collade. Sort de Barakonishmar, la fin du discours tout étant entendu, c'est la fin du Kohelet de l'Ephésias, craint Dieu et obéit à ses commandements, car c'est cela tout le tout de l'homme. C'est resté parti. La Gemara de Shabbat explique qu'il est collé à Adam de trois manières. Dans une est Kola Olam Kulo le Nidra et la Mitzvot Lazé. Le monde entier n'a été créé que pour accompagner celui-là qui a la Yirat Shamayim et la fatigue de Mitzvot. Et la Mitzvot Lazé. C'était l'enseignement de Rabbi Avada Kahana. Shakul. Non, c'est un autre. L'enseignement de Rabbi Shimon Ben Paz. Rabbi Shimon Ben Paz dit, le monde entier n'a été créé que pour accompagner celui qui craint Dieu et accomplit ses commandements. Donc c'est le verset de Kohelet. Eh bien, ce mot de Tzvot Lazé, c'est le mot de la valeur numérique de la mitzvah double lorsqu'elle est Lishma. Accompagner. Dans le texte de lequel Tzvot Lazé. Ça veut dire le monde entier, toutes les obstacles n'ont été créés que pour être avec, que pour accompagner celui qui accepte le projet de la Torah, Lishma. Alors on a fait remarquer que ce mot-là a la valeur numérique. Et 496, on ne fait pas marcher au mot. Des 248 multipliés par 2. Là-dessus. Et je vais reprendre juste pour terminer le premier verset de la paracha, de la haftara d'aujourd'hui. C'est là qu'on va avoir la surprise de cette haftara par rapport à notre paracha. Voilà, c'était à la page 6. Voilà. Premier verset. Raya, et il arrivera. C'est dans le prophète Osée, chapitre 2, je pense. C'est cela? Oui. Voya, Mistar Ben Israël, et le nom des enfants d'Israël sera Kekolayam, comme le sable de la mer, Asher Lehimad Velo Isaper, qui ne se mesure pas et qui se ne dénombre pas. On vient jusque-là. Alors, pensez bien que tous les commentateurs ont cité ces versets d'Aftara, des prophètes, et ont posé la question, qu'est-ce que ça veut dire un nombre qui ne se mesure pas et qui se ne dénombre pas? La réponse de la Gemara est que si c'est la Torah Lishma, il y a un nombre de mesures. Si c'est le nombre qu'on a vu. Si c'est la Torah Lishma, alors c'est l'Oïma de l'Oïsaper. Il n'y a pas de nombre. C'est-à-dire que c'est relié à notre problème. Et cette identification des noms d'Israël, finalement, se relie au patriarche. On a expliqué que c'est la raison pour laquelle, dans le Midrash, dans le verset 2 de la paracha, il y a signé proche pour la halal de l'Israël, au singulier, à la fois de l'être pluriel. Normalement, il aurait dû y avoir séou et traché pour la halal de l'Israël. C'est-à-dire, compter les membres de l'assemblée d'Israël. Mais il y a séou et traché, littéralement élever la tête, il aurait dû y avoir les têtes de chacun. Et ça veut dire que ça commence à Abraham lui-même, et lorsqu'il y a unité d'Israël, alors la Torah peut être reçue richement. C'est un peu comme ça qu'on a relié les différents thèmes. Lorsqu'on reviendra sur tout ce problème du dénombrement, que le dénombrement est une interpellation du jugement d'identité, et qu'il faut donc être à l'abri du clal pour qu'il n'y ait pas ce danger. Et certainement, Barkenora a indiqué le commentaire qu'il a donné sur le début du livre de Ruth, en pensant précisément à ce que le matin de Torah a été donné à Shavuot, et le livre de Ruth est donné à Shavuot. Alors, je vous souhaite à sa mère qu'on se trouvera en ce moment.